À l'occasion de la Journée de l'Europe marquée le 9 mai, nous allons nous intéresser à l'homme qui a instauré cette célébration, Jacques Delors. Jacques Delors, les paradoxes d'un homme d'État européen, c'est le titre d'un ouvrage co-dirigé par Michel Mangenot, directeur de l'Institut d'études européennes de l'Université Paris 8, et Fabrice Lara, enseignant-chercheur à l'Institut national du service public, qui sont avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Jacques Delors a été 10 ans à la tête de la Commission européenne, 10 ans qui correspondent à une formidable accélération de la construction européenne, avec en particulier, bien sûr, l'acte unique. Michel Mangenot, je commence avec vous. Rappelez-nous ce qu'on lui doit.
Alors, la postérité de Jacques Delors en matière de construction européenne est importante, d'abord parce que, selon son expression même, l'acte unique rédigé en 1985 et entré en vigueur en 1986 est, selon ses propres dires, son traité préféré. Pourquoi est-il son traité préféré ? Parce qu'il introduit le fameux objectif d'achèvement du marché intérieur au 1er janvier 1993, c'est-à-dire l'Europe sans frontières. Et c'est un objectif auquel la commission Delors, qu'il a présidé de 1985 à 1995, a été l'objectif central, cardinal de sa politique européenne et qui a été un succès en partie possible grâce au soutien des grands dirigeants politiques de l'époque, c'est-à-dire François Mitterrand qui a contribué à sa nomination, mais également, et c'est moins connu, plus curieusement, le soutien, en tout cas pendant les deux premières années, de Margaret Thatcher, avec laquelle ensuite il entretiendra des relations plus difficiles. Enfin, dernier soutien de poids, c'est évidemment le chancelier allemand Helmut Kohl.
C'est le premier, enfin il a été le premier à introduire l'idée de monnaie unique, d'une ébauche de politique de défense et de politique étrangère commune. Alors aujourd'hui, ça résonne particulièrement à nos oreilles.
Alors ça, c'est effectivement plutôt dans la deuxième partie du mandat très long de Jacques Delors, à partir de la fin des années 80, une fois que l'objectif de l'achèvement du marché intérieur, donc de l'acte unique, est finalement entré en vigueur. C'est les fameuses 300 directives qu'il a fallu adopter pour arriver à cet objectif très important. Le développement du projet européen de Jacques Delors s'est situé sur la question monétaire. En fait, dès 1984, il avait trois idées qu'il a soumises au capital avant sa nomination à la tête de la Commission en 1985. La monnaie, l'ancêtre de l'euro, qu'on appelait l'écu à l'époque, la défense et l'acte unique, c'est-à-dire le marché. Le marché étant réalisé, il a considéré que la monnaie devenait la question prioritaire. Et donc il va, mais ça rejoint évidemment son parcours sur lequel on reviendra, puisque c'est le jeune rédacteur de la Banque de France dans lequel il a commencé sa carrière, qui va réunir le fameux comité de l'or, composé des gouverneurs des banques centrales européennes, pour aboutir au traité de Maastricht, à la signature, la négociation de l'union économique et monétaire qui donnera naissance à l'euro. Concernant la défense, qui est le deuxième sujet que vous évoquez, qui n'est pas en tant que tel encore évoqué dans le traité de Maastricht en 1992, qu'il va contribuer à négocier. Et là, comme on le montre un peu dans l'ouvrage, les réactions vont être plus difficiles, en particulier dans les capitales, en particulier de François Mitterrand et des Britanniques, qui vont considérer que la Commission européenne outrepasse un peu ses compétences. Ça rejoint un débat très actuel aujourd'hui sur la présidence von der Leyen et les compétences en matière de défense dans le cadre de la guerre en Ukraine. Mais il y a bien effectivement un projet de l'or, d'une politique étrangère et de sécurité, mais une politique étrangère et de sécurité et de défense beaucoup plus intégrée que celle qui va aboutir au traité de Maastricht, en particulier parce que là, il va connaître sa première véritable divergence avec François Mitterrand, Jacques Attali, son conseiller, mais également le Quai d'Orsay.
Et pour revenir au marché unique, on lui a reproché un marché unique, libre circulation des capitaux, des marchandises, des hommes, auquel il manquait peut-être un volet social. Pourtant, Jacques Delors, c'est l'homme aussi social, l'homme de gauche.
Oui, alors c'est un peu un des paradoxes qui forme le sous-titre de cet ouvrage. C'est sans doute le paradoxe le plus important, c'est que Jacques Delors a été perçu par une partie importante de la gauche dont il provient, du Parti socialiste qui rejoint en 1974, d'être trop libéral, voire néolibéral. Mais comme on essaie de le montrer aussi dans l'ouvrage, il y a un deuxième axe de la pensée européenne de Jacques Delors, qui est la question des questions sociales, plutôt centrée autour de la question du dialogue social. Jacques Delors est l'homme de la relance du dialogue social. Alors aujourd'hui, le dialogue social est moribond hein, depuis une dizaine d'années. Mais pour reprendre aussi une de ses expressions, c'était son rêve absolu, c'est-à-dire de créer des modalités de négociation collective à l'échelle européenne entre patronat et syndicats européens. Ça va fonctionner pendant les fameuses rencontres de Val-Duchesse pendant plusieurs années. Ça va aboutir à des accords très importants. Il y a aujourd'hui un accord que tout le monde connaît, qui est la directive travail à durée déterminée, qui limite l'abus par les employeurs de contrats à durée déterminée. C'est un texte issu du dialogue social européen négocié sous Jacques Delors.
Peut-être en complément de ce que vient de dire Michel Mangenot, Jacques Delors était bien conscient des limites du marché unique. Il le disait lui-même, on ne tombe pas amoureux d'un grand marché. Hein. Ce qui l'a conduit, notamment dans la fin de la deuxième partie de sa présidence, de développer toute une réflexion sur l'âme de l'Europe et chercher à se rapprocher des citoyens et de développer la question de l'identité, du respect des identités et la question de la place de la nation dans cette structure européenne.
Ce qui nous amène à cette expression paradoxale aussi qu'on doit à Jacques Delors, fédération d'État-nation. Qu'est-ce qu'il reste de cette notion aujourd'hui?
C'est compliqué. La prise de conscience du fait national et la persistance du fait national, elle a été suscitée par l'apparition de la guerre en ex-Yougoslavie qui a beaucoup marqué Jacques Delors, ce retour du nationalisme et de la violence sur le sol européen. Et en même temps, le référendum pour l'adoption du traité de Maastricht en France a été assez durement acquis. Voilà. Donc cette majorité très relative a fait prendre conscience de la permanence d'un certain nombre d'identités nationales, l'attachement à des traditions qui pouvaient se marquer aussi dans un certain nombre de produits, des traditions alimentaires qui se heurtaient aux pratiques d'uniformisation du marché commun et qu'il fallait prendre tout cela très au sérieux. Alors aujourd'hui, dans un monde de plus en plus globalisé, je pense que l'idée quand même qui animait Jacques Delors, c'est-à-dire d'une Europe puissance, elle s'exprime dans ce concept de souveraineté européenne. Cette conscience que, isolés, les États-nations ne pèsent plus rien à l'échelle du monde et que c'est paradoxalement ce grand marché intérieur qui confère à l'Union européenne et à travers elle ses États membres un poids qu'individuellement, il n'aurait pas.
Dans l'introduction, vous dites au détour d'une phrase que l'Union européenne est en crise de leadership. Michel Mangenot, comment est-ce que vous comparez la présidence actuelle de la Commission avec Ursula von der Leyen et celle de Jacques Delors?
Alors effectivement, on est dans deux Europes très différentes. Quand Jacques Delors préside la Commission européenne de 85 à 95, il travaille avec les présidents et les premiers ministres des pays de la communauté qui préside semestriellement le Conseil européen. La différence qu'introduit le traité de Lisbonne est d'apporter évidemment un nouveau président à l'Union européenne, puisque désormais, depuis 1er novembre 2009, il y a un président permanent du Conseil de l'Union européenne, aujourd'hui Antonio Costa. Ça a beaucoup changé la donne parce que la relation que le président de la Commission entretient avec ce président est soit plutôt conciliatrice, comme ça a été le cas avec Herman Van Rompuy et Jean-Claude Juncker, mais on le sait, entre Charles Michel et Ursula von der Leyen, les relations étaient extrêmement tendues et difficiles qui ont abouti à ce fameux sofagate à Ankara. Et donc, de ce point de vue-là, l'Europe de Jacques Delors était une Europe dans laquelle ce type de conflit ne pouvait pas exister puisqu'il n'y avait pas de président permanent du Conseil. Donc, le leadership, en quelque sorte, de l'Europe était plus simple à incarner parce qu'il s'agissait pour le président Delors d'engager des relations de confiance avec les chefs d'État et de gouvernement qui composaient le Conseil européen, mais qui n'engageait pas une concurrence de leadership telle qu'elle a été exacerbée aujourd'hui, même si aujourd'hui les relations entre Antonio Costa et Ursula von der Leyen dans son deuxième mandat sont beaucoup plus apaisées que celles qu'elle avait pu avoir avec le président Charles Michel.
Fabrice Lara.
Oui, autre différence majeure entre l'Europe de Jacques Delors et l'Europe telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est le changement d'échelle. L'Europe de Jacques Delors, ce sont 12 États membres. aujourd'hui, après être passé à 28, on est à 27, mais en termes d'hétérogénéité, en termes de diversité, en termes de possibilité de nouer des relations personnelles, pour exercer ce fameux leadership qui était celui de Jacques Delors, les conditions sont complètement différentes. Donc cet élargissement, ces élargissements successifs ont fortement changé la donne aussi.
Et est-ce que ça contribue, selon vous, à une différence qui me semble frappante, mais peut-être que vous allez me démentir? Il y avait quand même une grande vision politique chez Jacques Delors, et on a l'impression que là, la présidence de la Commission a des caps un peu plus sinueux, un peu plus flous, au gré des équilibres politiques.
Ce qui est certain, c'est que l'écho que pouvait trouver cette vision de Jacques Delors chez ses partenaires à l'époque était facilité par le fait qu'ils étaient en nombre réduit, où il y avait une proximité politique, idéologique et culturelle. Il y avait une constellation d'acteurs qui lui étaient très favorables et que les trois outsiders à l'époque, qui étaient la Grèce, le Portugal et l'Espagne, étaient des nouveaux venus qui ne demandaient qu'une chose, c'est à s'intégrer. Et Jacques Delors a été un grand facilitateur pour eux. Donc je pense que ça permettait justement à cette dynamique de se développer, dynamique qui est beaucoup plus difficile à trouver, étant donné les conditions actuelles, et encore une fois, cette hétérogénéité des intérêts, des histoires nationales, et la question de la taille des différents États membres, là encore, ça s'est énormément diversifié.
Michel Mangelot, vous vouliez
ajouter? Oui, je voulais juste ajouter un point qui est important par rapport à la question de Jacques Delors et de la gouvernance de l'Union européenne aujourd'hui, c'est la relation au Parlement européen. C'est-à-dire que naturellement, aujourd'hui, depuis le traité de Lisbonne, le président ou la présidente, en l'occurrence, est élu formellement par le Parlement européen. Et donc, ça change considérablement la donne. Aujourd'hui, on a une très forte politisation des institutions européennes, qui est quelque chose de par ailleurs positif, avec l'augmentation, le poids des groupes politiques au Parlement européen. Mais on sait aujourd'hui que cette élection du président ou de la présidente par le Parlement européen, depuis la première de Jean-Claude Juncker, signifie que, d'une certaine façon, la présidence de la Commission est dépendante du Parlement européen. Et donc, Jacques Delors, sa capacité d'être à équidistance entre le Conseil européen et le Parlement.
Vous dites aussi qu'il a dénationalisé et européanisé la politique, Jacques Delors. Il a été moins connu en France et pourtant il y a exercé de hautes responsabilités.
Alors ça, c'est un paradoxe qui est peut-être dû à l'originalité de son parcours et à son attitude par rapport à la politique en général. Jacques Delors détonnait à travers sa formation. C'était un autodidacte qui est monté les différents échelons à la Banque de France, qui... grâce à son entrée au plan est devenu haut fonctionnaire, mais qui avait beaucoup de mal à se retrouver dans le fonctionnement de la politique politicienne française, et notamment dans les partis politiques, même s'il a fini par adhérer au Parti socialiste français, a soutenu François Mitterrand. Mais sa conception de la politique était complètement différente et ne rentrait pas dans les cadres traditionnels français. Donc, son arrivée à Bruxelles, après son passage au ministère de l'économie des finances, où il a incarné une forme de réalisme économique et financier qui lui a été beaucoup reproché, qui était très moderne, lui a permis finalement de beaucoup mieux vivre cette conception de la politique et de l'action publique qui était la sienne, à travers le poste de président de la Commission, qui est surtout une fonction de prendre des initiatives, de créer du consensus, de lancer des idées, des initiatives, et c'est quelque chose qui convenait parfaitement à sa conception de l'action.
Michel Mangelot, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose d'abord ?
Oui, je pense qu'il faut quand même évoquer la raison aussi pour laquelle Jacques Delors est resté dans la mémoire européenne. Il faut bien indiquer qu'il y a un malentendu quand on parle de Jacques Delors. On présente Jacques Delors comme un fédéraliste au sens de partisan d'un État fédéral. Son concept de fédération d'États-nations, vous l'avez rappelé, c'est un oxymore. Ça vise à dire qu'il ne s'agit en aucun cas de créer un État fédéral. Par contre, l'oxymore de fédération d'États-nations permet bien de concilier la naissance d'un centre de pouvoir, d'une souveraineté partagée, avec des souverainetés nationales dont il appelait le maintien, en particulier en matière sociale. Et l'autre point que je voulais indiquer, c'est que comme en 1994, il est resté dans l'histoire parce qu'il a renoncé à se présenter à la magistrature suprême à ne pas se présenter à l'élection présidentielle de 1994, c'est évidemment que du coup son poste de président de la Commission pendant 10 ans est resté comme l'achèvement de sa carrière. Si, pour reprendre le titre de l'ouvrage de Cécile Amar, « L'homme qui ne voulait pas être roi », nous on a plutôt essayé de le concevoir comme un homme d'État européen.
Une petite remarque à ce sujet, c'est que ce qui est intéressant de constater, c'est que le succès de Jacques Delors à Bruxelles et dans les capitales européennes était dû notamment au fait c'est que, pour les étrangers, Jacques Delors apparaissait comme quelqu'un de très peu français. Il n'était absolument pas arrogant. Il n'y avait pas une volonté de domination, d'apposer un quelconque modèle français. Au contraire, c'était basé sur la collégialité, sur l'écoute. Ça, c'est une démarche qui est tout à fait inclusive et qui, du coup, encore une fois, explique en grande partie son succès.
Merci. Jacques Delors, Les paradoxes d'un homme d'État européen, c'est le titre du livre que vous avez co-dirigé, Michel Mangenot et Fabrice Lara. Il est édité dans la collection INSP Recherche par l'Institut national du service public à la documentation française. Merci à tous les deux.
Merci à vous.